Bienvenue à la French Connection, épisode 128, deux semaines après le Hackfest. Je suis avec Richer.
Salut.
Damien.
Salut tout le monde.
Steve.
Bonjour à tous.
Et Vincent.
Salut.
Donc, commençons avec les Shameless Plug. La seule chose que j'ai dans ma liste à l'heure actuelle, c'est le Secure qui est le 20 avril prochain. Et ce qui me fait penser qu'au Hackfest, on m'a beaucoup sollicité pour des gens qui sont dans des communautés hors des grands centres au Québec. Et c'est valide en France ou dans n'importe quelle région francophone d'ailleurs. Si vous avez des événements que vous voulez faire la promotion, ça va nous faire plaisir de relayer vos événements locaux. Et c'est très important puisque c'est une partie de notre mission de pouvoir permettre aux gens en infosec d'échanger et permettre surtout aux communautés un peu plus éloignées, ou en tout cas du monde hors des grands centres, de pouvoir se rencontrer et échanger sur ce genre de choses. Ouais. Et je constate que le petit français a oublié de fermer son micro, donc il éternue allègrement. Maintenant, commençons avec, dans le fond, c'est deux semaines après l'Hackfest, vous avez eu le temps de digérer chacun qu'est-ce qui s'était passé, comment vous avez abordé l'événement. Qu'est-ce que vous en avez retiré? Est-ce que vous pouvez faire chacun votre tour, un petit récap et échanger sur le sujet?
Ben, j'ai commencé du coup, hein, vu que c'est moi qui ai le premier à avoir éternué. Déjà, c'était un super rendez-vous. Ça peut être simple de le dire comme ça, mais c'était vraiment encore mieux que les autres années. Alors, on se demande même comment c'est possible. Plus de monde, plus de contacts, une belle ambiance. Moi, de mon côté, j'ai été vraiment très impressionné par la réceptivité des gens. Je vais être très clair, hein, des ministères, parce que nous, c'est ce qu'on a montré avant tout. De gens venus après la conférence dire bah écoutez, c'était intéressant, est-ce qu'on peut rester en contact pour que vous puissiez nous aider ou nous apporter des informations. Ça, c'était vraiment, c'était pas que des paroles en l'air comme on peut le croiser énormément dans beaucoup de salons, dans beaucoup de rendez-vous, dans beaucoup d'Hackfest, sachant qu'en plus j'avais mis quand même des procédures en place, hein. Moi, il était hors de question que je donne les informations que je n'avais pas en main. Il fallait obligatoirement m'envoyer un mail officiel de manière à avoir quelque chose de concret. Hein? Et ben, c'est simple, hein. Mardi, après avoir, pourchassé des ours, être poursuivi par des caribous et surtout avoir retrouvé mon passeport. D'ailleurs, je fais un énorme bisou à cette personne qui m'a permis de retrouver ce passeport que j'avais paumé comme un gros balourd. Je vous le donne en mille dans un restaurant où on mangeait de la poutine. Toujours est-il que le mardi, tout le monde m'écrivait et tout le long de la semaine, j'étais en relation avec énormément de gens. Et ça, franchement, ça fait drôlement plaisir parce que, d'abord, il y a clairement une prise de conscience, je pense, il serait temps. Mais vu que tout ce qui est tombé du côté, tout ce qui est plus fuite de données, c'est loin d'être négligeable. Et après, côté Hackfest, j'ai trouvé que qualitativement, d'ailleurs, sans faire le moindre lèche, comme on dit en France, sur le joli crâne brillant de Steve et Patrick, leur rendez-vous était vraiment très sympa. Toi aussi, Nicolas, j'ai eu la chance de pouvoir voir la chose en différé. Parce que bon, je l'avoue, au moment où Nicolas parlait, j'étais en train de pleurer comme un pauvre malheureux en me disant « What the fuck, il est où ce passeport ?» donc ça c'est très clair. Donc là, déjà, vos parties étaient vraiment passionnantes. Après, les rendez-vous se féminisent, et ça, c'est loin d'être négligeable. J'ai trouvé ça vraiment fort sympathique. Les femmes, voilà, vous, mesdames, vous êtes là, et ça fait super plaisir, parce qu'on a une fâcheuse tendance. Alors nous, on est un petit peu habitués, parce qu'on en voit beaucoup, mais pas obligatoirement présente. Et là, ça fait drôlement plaisir de voir que le Hackfest attire aussi la gente féminine qui, en informatique, je suis en train de m'étouffer, en informatique, sont présentes, elles sont bien présentes. Et franchement, on apprend des choses passionnantes. On a aussi un autre regard, je sais pas ce que vous en pensez, hein, les gars, hein, mais elles ont aussi un autre regard et elles nous font peur tellement elles sont douées.
Bon, c'est moi qui vais poursuivre. Alors, effectivement, un bon Hackfest encore cette année. Oui, Damien, t'as raison. Les femmes sont de plus en plus présentes. Puis, on a des alliés, là. Je dis pas qu'elles font peur, là. Mais je dirais plus qu'on a des alliés. Les femmes sont plus intrusives que les hommes habituellement. Tournent moins les coins ronds. Je dis pas qu'on tourne les coins ronds, mais les femmes ont une façon d'analyser l'information qui parfois nous échappe. Mais bon, cette année, c'est un bon Hackfest, effectivement. Moi, j'ai rien à rajouter. Écoute, tu as fait une belle introduction, là, puis un bon résumé de l'ambiance qu'il y a eu cette année, Damien. Moi, il y a une petite affaire que j'ai trouvé vraiment comique. Je suis arrivé très tôt, moi, le vendredi matin. Je sais qu'il y a eu des activités le jeudi soir. J'étais assis à côté du foyer, derrière la porte où il y a la piscine. J'étais dans le divan. Je lisais les nouvelles. Je m'informais. Écoute, il y a un client du Hackfest qui a, je ne sais pas quel type de soirée il a passé, mais baptême, qui cognait des clous assis sur le trône, c'en était délirant. Nicolas, il y a un de vos photographes, il s'est setupé là. Il a fait une séance photo de la mort à côté du gars. On riait, c'était excellent.
Ben, les photos devraient sortir incessamment, donc oui, j'ose espérer
que ça va partir de la sélection. Petit détail aussi important, côté ambiance, j'ai eu énormément de retours ultra positifs de l'ensemble des CTF. Grosse nouveauté cette année, et à première vue, ça a plu énormément à des gens qui, ne s'attendaient pas à ce type de CTF, et puis surtout, il y en avait pour tout le monde, tous les niveaux. Et là, je pense qu'on peut aussi lever notre casquette, notre chapeau ou le peu de cheveux qui nous reste aux organisateurs. Hein.
Exactement. Merci beaucoup les organisateurs. Oui, c'était une belle édition. Outre, de ma part, l'actualité qui s'est embourbée le vendredi matin avec cette déclaration choc de tout le dataset de Desjardins qui était maintenant compromis officiellement. Ça a coupé short un peu ma visite au Hackfest alors que je suis parti un peu faire une petite trotte médiatique. Mais ça n'en demeure pas moins qu'on sent l'engouement qui est présent sur l'événement est définitivement pour changer de place. Il n'y a pas assez de place pour tout le monde là-bas. Et ça va doubler, je suis certain, ça va doubler les gens qui vont s'y présenter. J'étais très, très surpris de ne pas voir le CST, mais bien le SCRS qui, à mon sens, faisait beaucoup de documentation sur le terrain, voire même du recrutement actif. Mais je sentais beaucoup plus qu'il était en mode de documentation selon les questions qui étaient posées. Fait que c'est assez comme.
Moi, pour ma part, je trouvais ça bien intéressant. Je suis arrivé en retard un petit peu, mais bon, je suis quand même arrivé. Donc, et cette année, pour la première fois, j'avais amené un de mes garçons. Et il a pu participer à l'initiative qui avait été commencée pour les jeunes, pour initier les jeunes à tout ce beau monde. Et donc, lui a adoré ça. Il a fait de la soudure, il a participé, il a aidé, il était bénévole. Et donc, pour ma part, moi, j'ai trouvé ça extraordinaire de pouvoir intégrer et lui faire trouver des nouvelles passions. Donc, c'est peut-être pas nécessairement un job qu'il va pouvoir faire, mais on sait jamais. C'est parce que si on l'essaye pas, on ne sait pas. Donc, moi, j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire de pouvoir intégrer ça, les aider, les faire aimer ça, là, finalement, de les faire connaître qu'est-ce que c'est. Puis, moi, j'ai trippé, comme d'habitude, avec les talks et les choses en général. Donc, je suis bien content de toutes vous rencontrer encore. Donc, ça, c'est toujours le fun. Et donc, pour ma part, j'ai bien aimé ça.
Effectivement, pour l'aspect humain, c'est fantastique comme événement. Chaque année, pour moi, c'est un énorme plaisir de tout rencontrer. Puis pour certaines personnes, d'ailleurs, que je rencontre qu'à cet événement-là, dont Richer, que je ne vois qu'une fois par année, mais là, même si on se parle à travers d'autres canaux à travers ça. Pour moi, pour le gouvernateur que je peux être, j'ai été une année où la nature des conférences que j'ai pu voir, et comme je fais la captation vidéo, je les ai tous vus. M'a vraiment flabbergasté en termes de qualité du contenu, de diversité, probablement plus qu'à l'habitude. J'imagine que ça doit être ça qui m'a le plus étonné, à quel point on a abordé tous les sujets, on a abordé toutes les choses, on a vraiment pour tout le monde. Fait que de nature sécurité défensive, j'étais vraiment, vraiment très, très bien servi. J'ai apprécié. On a eu beaucoup de plaisir aussi à l'enregistrement du podcast ce soir même. Et à ce moment que vous allez entendre ceci, le podcast de la Hackfest va être diffusé. Étonnamment, cette année, je n'ai pas traîné des pieds.
Je propose qu'on applaudisse.
C'est spectaculaire. Oui, je me suis mieux organisé cette année de toute apparence, fait que j'ai été capable de livrer dans les temps. Et même l'épisode 16, c'est-à-dire que le podcast de 2017 va être sorti probablement dans les jours qui suivent aussi. Également. Oh my God. C'est quand même, hein, on est rendu à l'épisode 128 et l'épisode 16 va sortir. Sur ça, nous allons embarquer dans les vraies nouvelles cette fois-ci, pour embarquer sur un épisode plus conventionnel. On va commencer avec le fait qu'une nouvelle un peu plus nostalgique, Steve va nous aborder un peu le Maurice Worm qui a quand même bouleversé les internets quand les internets n'étaient pas encore connus il y a 30 ans.
Et oui, le Maurice Worm présent dans nos vies, veut dire, ça a été quand même un gros éveil parce que si on se rappelle aussi, dans le 30 ans, les internets n'étaient pas les internets, mais bien l'internet que l'on connaît. Et c'était quand même assez fantastique. Puis le fond de l'histoire là-dedans, c'est que Robert Morris, il s'est fait remercier de ses services. Puis il a dit, tiens, moi, je ne veux pas prendre le temps d'exploiter et de travailler avec mes dossiers. Et il a écrit des lignes de code pour envoyer ça sur l'internet au complet du moment. Et de ce fait, il ne s'attendait pas que ses travaux étaient copiés partout. Et ça a gelé justement tout l'environnement de l'Internet du temps, donc l'ARPANET à ce moment-là. Quand même, il a été jugé et condamné selon les lois du Computer Abuse Act des États-Unis là, du début des années 80, ce qui était quand même adéquat à ce moment-là, plus ou moins aujourd'hui. Mais c'était quand même très révélateur et ça a donné aussi un indice sur la puissance que quelqu'un peut avoir à vouloir utiliser un réseau comme ça et bloquer l'accès à l'information. C'était quand même, ça a servi un autre aspect d'éveil, mais en même temps, c'était quand même pour lui sa façon de dire qu'il n'était pas content de s'en aller. Donc, une des premières attaques par verre informatique, une des premières attaques, pas des premières, mais quand même une attaque significative de partir d'une menace à l'interne. Voilà.
De façon historique, c'est probablement le premier réveil assez important de ce qu'on peut connaître de la sécurité maintenant. Puis c'est très intéressant que ça a été, mais ça amène aussi l'éveil sur le fait que les employés qui quittent volontairement ou pas peuvent avoir certains griefs face à la compagnie. Et on a un cas peut-être un peu plus récent chez Trend Micro où il y a quelqu'un un peu fâché a fuité de l'information.
Oui, c'est ça. On n'arrête pas d'en parler, hein, de ces potentialités de fuite de données internes. Le Trend Micro a goûté aux joies de ce problème, hein. Ils l'ont annoncé cette semaine. C'est simple, hein, service après-vente. Quelqu'un, à première vue, est parti avec des informations clients. Et comment ils s'en sont rendus compte? Eh bien, tout simplement, des scammers, hein, vous savez, ces arnaqueurs, ont directement téléphoné à des clients sur lesquels, eh bien, ils ont précisé tellement d'informations que ce potentiel client s'est posé des questions lui-même en se disant, mais comment vous savez tout ça sur moi? Donc, il a alerté Trend Micro. Enquête interne, on se rend compte que le gars a copié des informations. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que d'un côté, c'est soit des informations sensibles, soit ça ne l'est pas, ça dépend du communiqué de presse, en fait, hein. Mais toujours est-il qu'avoir le nom, le prénom, l'adresse, le numéro de téléphone et certaines informations du ticket de service après-vente, aurait pu permettre à ces malveillants eh bien, de mettre en place des escroqueries encore plus fines, voire même des fraudes aux faux virements, hein, les fameuses arnaques au président. Donc voilà, donc ça prouve aussi que le mal, le ver peut être à l'intérieur, hein, ce n'est pas que chez Desjardins, ça peut être partout. Et le problème, c'est qu'il va falloir aussi peut-être réfléchir à former les personnels, ça c'est sûr, peut-être aussi former nos élus à avoir des lois qui soient beaucoup plus carrées sur comment punir ce genre de population, mais aussi éventuellement punir les entreprises, hein, parce que c'est pas normal, je ne sais pas moi, qu'un employé ait par exemple 100% des informations de ses clients et des clients de l'entreprise pour qui il travaille. Donc voilà, donc là c'était une fuite qui a été très rapidement prise en main, ça c'est intéressant. Non, ça va être un peu comme chez Desjardins, hein. Combien a-t-il véritablement pu voler d'informations? Combien a-t-elle été rediffusée, revendue? Ça on va l'apprendre dans les semaines à venir.
Tout ça est très moche que ce genre de situation-là, mais en même temps, c'est un éveil assez brutal, puis je pense qu'on n'a pas été sensibilisé suffisamment. Au Québec, Desjardins était un bel outil de sensibilisation, mais à quel point les employés internes représentent un risque et qui n'est non négligeable, donc dans le cas d'un congédiement rapide ou d'éléments comme ça, ou même d'un employé qui quitte avec un peu un grief contre l'entreprise, il faut toujours être très, très vigilant à ce qui peut se passer. Puis je pense qu'il y a une certaine désinvolture qui mène aux situations qu'on connaît maintenant, là, ce qui est un peu triste, mais en même temps
mais imprévisible. Est-ce qu'on l'aurait su si un client ne s'était pas plaint?
Probablement pas, mais comme bien des cas aussi de fuite où on ne voit pas si tant que... tant qu'il n'y a pas de plainte officielle ou tant qu'il n'y a pas d'enquête ou il n'y a pas d'activité, on ne le voit pas. Les entreprises sont malheureusement un peu aveugles à ce titre-là et ont toujours considéré que les employés internes étaient d'entière confiance. Donc, changement de paradigme assez important pour beaucoup de gens. Puis c'est assez violent, là, parce que je vais un peu faire du millage sur comment Guy Cormier de Desjardins a vécu la situation. Il a vécu ça comme une trahison. Parce que dans son cas, c'est un employé-ish qui a trahi sa propre business, dans laquelle, en général, on a tendance à croire que nos employés sont minimalement de confiance par rapport à ce genre de choses-là. Et je vois des sourires. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent intervenir?
Oui, je voulais revenir sur le petit élément que Damien vient de mentionner là. Est-ce qu'on aurait été en mesure de soulever ce cas-là s'il n'y avait pas eu de plainte? Écoutez, vous me connaissez, je suis en Audi, j'aime beaucoup la gouvernance, les processus stratégiques. Une bonne gestion de plainte amène justement à pouvoir soulever ce genre de cas-là. C'est très important, plainte versus les petits mécontentements, là, enregistrer des éléments, sensibiliser les employés, c'est un processus qui est stratégique dans l'entreprise, ce type d'éléments-là. Mais chapeau qui a été en mesure de soulever ce cas-là, justement, mais ça a pris combien de temps? Ça, c'est l'autre élément, mais il faut être extrêmement vigilant, justement.
Absolument. Puis ça, je vais ramener un cas un peu tout à fait qui peut-être va nous rappeler un peu la crise pour certaines personnes. C'est comme les pannes électriques. Hein. Historiquement, tout le monde pensait que ce son voisin allait rapporter le fait qu'il y avait une panne. Donc, personne ne rapporte. Donc, finalement, il n'y a personne qui indique la panne qu'elle existe. Constant qu'on a eu une panne majeure au ACFES, mais pas le ACFES lui-même. Dans ce cas-ci, c'est effectivement très important que les gens rapportent les problèmes qu'ils voient dans ce genre-là. Puis c'est malheureusement ou heureusement, en tout cas, dans le fond, la vigilance des gens qui voient des données qui ont fuité d'intervenir et d'alerter les compagnies qui n'ont peut-être pas toujours les moyens de voir ou la capacité de voir, parce que des fois, les employés internes sont quand même assez brillants et assez intelligents pour masquer un certain nombre de leurs manœuvres qu'ils ont faites pendant des années et des années. Là. C'est d'avoir ce genre de choses-là. Basculons sur la nouvelle suivante. Deux nouvelles, d'ailleurs, qui sont plus en rapport avec la sécurité nationale. La première, qu'il y a un soldier militaire qui, avec des accès top secret, a quand même réussi, comme été forcé d'agir de façon un peu dangereuse de ce que j'en... Ce que Steve a pu mis dans la nouvelle, et il va nous entretenir avec plus de précision.
Oui, c'est une nouvelle qui est sortie par le Washington Post le 12 novembre dernier et qui a vraiment, dans les collègues analystes du service de renseignement que je parle avec encore, c'est vraiment déconcertant de voir qu'un commandant, le commandant du 504e, la 504e brigade du renseignement militaire américain, une brigade généralement, là, c'est autour de quelques milliers de personnes. On voit typiquement, dans les chiffres d'époque, là, c'est 4-5 000, mais je doute aujourd'hui, mais il reste pareil. Des milliers de personnes comme ça qui sont vraiment au renseignement. Donc, ils travaillent avec à fournir du matériel. Donc, ils collectent l'information, donc ils font du renseignement humain, du human. Vont faire à ce moment-là de l'analyse de renseignement ouvert et après ça, colliger et après ça, disséminer cette information-là. Mais il y a des gens qui travaillent là-dedans qui n'ont pas intérêt à se faire reconnaître et à se faire, à ce moment-là, épingler pour ne pas dépiner par Google sur une carte, en quelque part. Donc, la commandante en question, elle a imposé que les militaires travaillant pour cette brigade-là installent l'application de l'organisation sur le téléphone personnel, je dis bien personnel, pas du travail, pour qu'ils puissent être au courant, pardon, de qu'est-ce qui se passe, les renseignements de météo, d'activité, de quoi que ce soit. D'autrement dit, à connotation sociale, c'est épouvantable, comme c'est un manque de jugement flagrant de ce commandant-là, qui a ignoré vraiment tout le monde dans sa chaîne de commandement qui disait « Hey, fais pas ça, Christy, tu vas mettre à risque tout le monde. » Tout le monde lui dit « Hey, c'est hébergé de l'extérieur, puis c'est une application qui a été créée à l'extérieur. » Le développeur, lui, s'en lave les mains. Il dit « Non, 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 faites-vous-en pas, la violation de la vie privée par rapport là-dedans, puis c'est tout le client en bout de ligne qui contrôle tout ce qui se passe sur l'activité de l'application. Mais il reste fondamentalement, on sait comment ça fonctionne, un système d'exploitation sur un téléphone. Encore Google, on l'a vu, pas Google, mais Facebook cette semaine, qui a avoué qu'il a fait un petit bug, un petit oups, qui pouvait allumer la caméra n'importe quand sur l'application. Donc, c'est assez bizarre qu'un commandant, pourtant, qui a reçu maintes et maintes fois des briefings au sujet de la menace informatique, des menaces informatiques provenant aussi des États-nations, que se lance librement à imposer l'utilisation d'une application développée civile à des fins administratives avec des gens en situation opérationnelle. C'est un OPSEC fail qu'on appelle dans le jargon. Donc, c'est incompréhensible tant qu'à moi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais me semble que ça dépasse la réalité.
Ben, essentiellement, puis c'est ce qu'on voit beaucoup dans le civil, c'est qu'il y a une incompréhension des gens. Les gens ne sont pas sensibilisés, puis j'imagine que d'un point de vue militaire, le disconnect entre la personne normale qui n'est pas un technologue et le technologue était de plus en plus grande et ils ne comprennent pas la conséquence et la portée de tout ça, même s'ils ont eu des briefings, même s'il y a des choses qui leur ont été dites. Là. Je passe à la balle au prochain.
Mais ce qui est frappant, c'est qu'elle a des experts, cette personne-là, dans sa chaîne de commandement, donc des gens qui travaillent pour elle, qui lui ont dit, ils ont fait des exemples, voici ce qui va se passer si on est exposé de cette façon-là. Puis la personne va encore là faire peut-être accepter son projet d'une vie, je ne sais pas, mais ça me donne l'impression justement qu'elle a un objectif tout autre que celui justement de la sécurité des opérations. Moi, c'est un peu là que ça me blesse pas mal. Et pour l'avoir vu ici au Canada, souvent, il y en a beaucoup qui vont prendre un agenda, ils vont faire valoir le point pour simplement marquer « check, j'ai fait un projet, puis ça a eu une portée nationale, etc. » sans égard de ce qui se passe dans la vraie vie. J'espère en tout cas que cette personne-là, ce colonel-là, va être ravisé de revoir son approche parce que si c'est le cas, ça sert à quoi donc de masquer l'information au profit que les environnements non autorisés vont avoir accès éventuellement au personnel, ça, de savoir. Puis après ça, c'est du renseignement qui se vend très bien et qui met à risque les opérations.
Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir? Non, ben ça, la dernière chose que je peux rajouter là-dessus, c'est qu'on l'avait vu au niveau d'application de fitness. Où il y avait justement des militaires américains qui étaient traqués. Fait que c'est juste une incompréhension de jusqu'à quel point ces technologies sont intrusives dans notre vie puis à quel point ils contrôlent beaucoup plus et qui fuitent beaucoup plus de ce qu'on pourrait penser, mettons.
Oui, très beau lien, Nicolas, exactement. Puis ça a permis de découvrir qu'il y avait des bases en opération dans des places que personne ne se doutait qu'ils étaient ces Américains-là. Fait que, yeah, watch out, la vie privée.
Et c'est pas comme
ça. Puis ça l'a dit.
Vas-y, Nicolas.
Non, vas-y. J'allais basculer de sujet, fait que je te laisse la parole.
Et c'est pas comme si cette histoire n'était pas déjà arrivée ailleurs, comme en France, par exemple. En 2018, c'était des agents des services de renseignement extérieurs qui avaient été tracés parce qu'avec leur application de running, ça permettait de savoir où ils couraient. Et donc, comme ils couraient autour du lieu où ils se protégeaient, eh bien, ça permettait de cibler plus ou moins leur lieu de vie. Quand on est en Irak, c'est plutôt gênant.
Ben, quand on est dans un théâtre de guerre, c'est généralement très gênant. Là.
Ben, ça l'est parce que ça se retrouve au public. Alors, généralement, ils essaient de garder ça low profile pour minimiser qui va vouloir cibler la place. Puis après ça, ben, si tu vois une concentration de points rouges d'une place sur toute une carte, ben, tu peux t'assurer que tout le monde réside dans ce coin-là, voilà une cible, etc. Tu sais, je veux dire, il y a du renseignement à découler de ça. Puis c'est ça qui est que la guerre au 21e siècle, elle doit se prémunir contre ce renseignement-là qui fuit à tour de bras avec des applications civiles. Ce qui est drôle du Fitbit, c'est qu'après qu'il ait découvert ça, tu as des mémos à l'intérieur des forces armées américaines qui ont découlé disant « Mettez-moi ça au vidange, il n'y a plus personne qui a ça sur les bases, surtout pas en opération. » C'est ça, tu sais, ça se fait après le fait. Puis c'est ça qui me déçoit beaucoup, alors que c'est supposé être avant-gardiste, anticiper qu'est-ce que ça peut faire. Mais la technologie va tellement vite, justement, au-delà des coûts, et c'est là qu'il y a des gens qui vont être en danger avec ça.
en danger. Puis de toute façon, c'est un peu un énorme problème. Puis je le vois de l'autre côté, c'est que le mélange entre le civil et le militaire ne s'opère pas bien. Ça ne s'est jamais bien opéré de toute façon. Quand on essaie de mélanger des contextes militaires dans un contexte civil et vice-versa, ça finit toujours par créer une certaine zone d'inconfort. Et tant qu'à parler de ce genre de choses-là, ben, Huawei au Canada, il y a quelques petits points litigieux, mettons.
Alors, parle-moi pas sur Huawei encore, Nicolas, s'il te plaît. Là. Colin, ça revient. Ça revient à la réalité parce que ce qui est assez épouvantable là-dedans, c'est que cette semaine, dans le Globe and Mail, est sorti que au Canada, ça a l'air que le CRS, le Service canadien du renseignement, ne verrait pas d'objection à ce que soit adopté l'utilisation de Huawei dans le déploiement de la technologie du 5G. Oh, attends un peu, là. Je connais beaucoup de gens, dont entre autres, j'ai parlé à quelques occasions avec l'ancien directeur du service de renseignement, M. Fadden, et ça n'est un qui milite justement pour ne pas que les Chinois rentrent dans le cœur de notre réseau de télécom. Et d'autres, il y était trois, autrement dit, dont l'actuel directeur qui parlait justement de ne pas permettre Huawei sur nos réseaux. Puis là, tout d'un coup, du jour au lendemain, dit que, ben là, on devrait peut-être, là, on devrait peut-être le permettre un petit peu. Fait que là, autrement dit, ce qui m'a vraiment, vraiment surpris dans cette déclaration-là, ça veut-tu dire qu'il y a eu de l'influence de l'autre côté pour que le service de renseignement adopte ça? J'aimerais ça que s'il y en a qui écoutent dans le podcast, qui nous reviennent, ça serait quand même assez intéressant d'avoir votre point de vue là-dessus. Parce que moi, ce que j'en sais, en tout cas, là, avec les intervenants que j'ai jasé avec, c'était non, il y a toujours cet élément-là, que l'élément, c'est-à-dire menaçant que la Chine n'est pas honnête dans son approche et la Chine va s'en servir pour justement miner dans le sens dégrader nos services télécoms si ça leur fait l'affaire, peu importe la situation. Parce qu'encore là, il y a des négociations qui ont lieu présentement, j'oublie juste en parlant, le sujet, mais par exemple, au Canada, il y a encore eu des négociations, le monsieur peut m'aider là-dessus, sur un deal ici, et ça n'a pas fait de bon ménage que, je vais vous retrouver l'article au cours du podcast, mais il reste pareil que ça, ils s'investissent à aller vraiment miner le processus de négociation, comme qui est arrivé avec la négociation de l'apotage dans l'Ouest. Ça veut dire que c'était pas jojo, parce que l'idée là-dedans, quand je dis qu'ils s'investissent à aller faire dérailler des processus de négociation, ils sont allés investir le cabinet d'avocats qui était dans le processus de négociation et ça a fait en sorte qu'ils ont été chercher toute la documentation par rapport à la négociation en cours et ça a fait qu'ils ont eu accès à une panoplie de renseignements puis donc étaient un avantage à la table des négociations. Fait que c'est là que c'est assez bizarre là, que le CRS prenne cette position-là. Messieurs, vous êtes en dehors du cercle, je veux dire, comment est-ce que vous voyez que Huawei vienne sur le réseau de télécom du Canada, alors qu'on le voit dans le monde de plus en plus, il y en a qui l'adoptent dans leur façon de faire. L'Allemagne aussi vient de se dire qu'ils ne reviendront pas en arrière, ils vont continuer. Qu'est-ce que vous en pensez?
Dis-moi, Steve, juste pour résumer, parce que je vois que tes émotions là, sont vraiment atteintes dans ce dossier-là, puis c'est un body qui parle, là. T'es-tu en train de dire qu'au travers du cheminement de la négociation, il y a quelqu'un qui a soulevé un litige pour introduire un cabinet d'avocats pour aller chercher une information qui était probante et qui avait de la valeur pour la partie qui voulait négocier justement pour rehausser leur qualité de l'information? C'est tout ça qu'il faut qu'on comprenne dans le dossier?
Là-dessus, Vincent, c'était un cabinet d'avocats qui était chargé de la négociation du deal de la potache en Saskatchewan envers le gouvernement chinois. Donc, c'était eux qui détenaient toutes les parties de négociation, autrement dit, plan de match, le plan de négociation, pour être capable de d'avoir un deal intéressant avec la Chine. Fait que c'est là que, si tu es un service de renseignement étranger, tu es peut-être intéressé d'aller voir c'est quoi le jeu de cartes, autrement dit, qu'ils vont dealer au cours de la négociation, c'est quoi peut-être même le montant maximal autorisé qu'ils sont prêts à payer, des choses comme ça, donc dans la stratégie de négociation. Est-ce que ça rejoint ce que tu cherchais à comprendre?
Non, j'ai je pense que c'est exactement ce que je voulais savoir. Là. C'est une... okay. En tout cas, c'est une bien drôle de... Je comprends que des avocats, dans des circonstances, doivent être impliqués, mais Moi, ce qui m'inquiète, c'est le degré de l'information, puis la sensibilité de l'information qui est en jeu dans ce dossier-là, qui peut mettre en péril, en fait, des infrastructures ou même un contraste de valeur qu'on a avec le pays avec qui on veut faire affaire. Là. Mais bon. OK,
oui,
merci.
Tout à fait. Tout à fait.
Ça soulève en tout cas encore les passions, ce sujet-là. Et justement, basculons vers un sujet peut-être un peu plus léger, mais tout à fait encore semi-militarisé dans ce cas-ci, c'est qu'on serait capable d'utiliser des lasers pour parler avec nos fameuses intelligences artificielles que nous mettons partout dans nos maisons à l'heure actuelle, Vincent.
Pratique inadvertance, il y a des chercheurs qui ont décelé qu'on pouvait utiliser les fameux petits lasers pour narguer nos boys bands préférés qu'on va voir en show là, dans les yeux, dirigés vers justement les enceintes, notamment celles de Google et celles d'Amazon, pour lancer des commandes vocales. Je vous rassure, le petit laser pour trouver les clés n'est pas en mesure de pouvoir faire ce type de travail-là. Ça prend de l'équipement assez sophistiqué pour justement rehausser le degré de concentration puis la force du laser. Mais il y a des chercheurs, justement, là. C'est des équipes de recherche au Japon puis aux États-Unis qui ont découvert qu'il était possible, avec des lasers assez sophistiqués, pointer sur des enceintes. Les enceintes, c'est des micros. Alors, pointer vers les micros et puis en jouant avec l'intensité, donc la force du laser, de passer commandes aux enceintes comme des commandes vocales et puis celles-ci nous répondraient puis acquiesceraient à ces commandes-là. Alors, une petite...
C'est... Ouais, c'est troublant.
Pourquoi c'est troublant?
Parce qu'on est capable de contrôler sans qu'on sache. C'est quand même des choses qu'on met dans nos... En tout cas, beaucoup de gens mettent dans leur maison puis en pensant que c'est inoffensif, à quel point maintenant on est capable de les user contre leur gré. Là.
Merci Nicolas, tu as tout à fait raison, c'est troublant. Cependant, la distance à laquelle on se trouve de l'enceinte, la qualité de l'équipement qu'on utilise, c'est pas monsieur, madame, tout le monde qui peut se procurer ce type d'équipement-là. Puis, je vais vous dire, monsieur Cornet, au bout de la rue, avec un cube de 16 pieds de long, qui traîne là pendant des heures, ça deviendrait suspect. Mais non, sans ça, la quantité, justement, d'enceintes qui sont installées dans nos maisons et puis l'opportunité pour des personnes malveillantes ainsi que leur motivation à aller chercher une forme d'information, faire du chantage ou simplement semer la zizanie, les ingrédients sont là pour quelqu'un de très motivé puis qui a les moyens de faire le con, on va dire.
Bon, ben, je vais y aller si Damien se retient à ce point-là. Ce que je voulais rajouter, Vincent, c'est qu'il y en a beaucoup aussi de ces enceintes qui vont commencer à se retrouver dans l'environnement de travail, pour pas dire dans des environnements où tu as des exécutifs de compagnie, donc qui vont commencer à parler. Et souvent, quand on regarde certains sièges sociaux qui sont en élévation et que tu peux voir l'autre siège social à travers les vitres, c'est là que ça devient intéressant de jouer avec cette technologie-là, puis investir des fois pour aller être capable de ramasser l'information. Mais c'est ça que j'amène le point, ce n'est pas juste dans l'environnement résidentiel ou individuel.
Et attention, là maintenant, ces fameuses enceintes, elles commencent à ne plus être enceintes. On en voit dans les casques, on en voit dans les voitures, on en voit maintenant dans les objets connectés comme les frigos, on les voit partout ces objets où on va pouvoir commencer à leur parler. Donc là, pour le moment, on a tous dans notre esprit cette espèce de petite boîte moche qui est dans un coin du salon. Sauf que c'est en train d'envahir l'intégralité de nos vies, l'intégralité de nos appareils. Regardez, ici en France, on a Orange qui est un opérateur téléphonique, on a SFR qui est aussi un autre opérateur téléphonique, qui propose l'enceinte connectée directement dans la box qui gère la connexion Internet de la maison. Vous imaginez à quel point c'est en train de bouffer nos informations. Et à un moment, on va se dire que ce matériel qui coûte aujourd'hui très cher, vous allez voir, dans 5-6 mois, on va le retrouver sur Wish ou Alibaba pour 10 balles.
Chers amis, nous sommes en train de vivre un moment de conspirationnisme.
La Terre est plate.
Pas tout à fait, Vincent, c'est basé sur qu'est-ce qu'on documente. Puis, je veux dire, on est des technologues assez allumés. Là. On le voit là, que ça se fait tout à vrai. Là. On est au-delà de la théorie du complot.
D'autant plus qu'il n'y a pas encore d'extraterrestres.
Bon, alors je pense qu'on va stopper la conversation là avant qu'on commence à dire que la Terre est plate et ainsi de suite. Alors, en plus, peut-être des choses un peu moins intéressantes ou déjà Disney Plus qui vient d'apparaître en France et à travers le monde aussi, dans certains, parce qu'on a le plupart des pays. Il y a déjà 10 millions d'abonnés qui auraient probablement été récupérés par des malveillants.
Alors, je vais remettre toute l'information dans l'ordre. C'est 10 millions de nouveaux clients chez Disney en 24 heures. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que je me suis dit, tiens, pour le moment, Disney+, hein, pour pas le citer, concurrent de Netflix et autres chaînes à péage, débarque en force. J'ai regardé dans les 2 heures du lancement de ce Disney+, voir déjà si les black markets divers et variés avaient quelques informations déjà sur les clients. Je vais être très clair avec vous, hein, 10 millions de gens qui venaient de s'inscrire, en 2 heures, j'ai récupéré plusieurs milliers de comptes déjà piratés. Ça veut dire quoi? Ça veut pas dire que Disney a été piraté, non. Ça veut dire que les gens, on a beau leur expliquer en long, en large et en travers, arrêtez d'utiliser le même mail, arrêtez d'utiliser le même mot de passe pour vos comptes. Non, Mickey et ses amis, ils ont décidé d'utiliser toujours le même mail, toujours le même mot de passe pour partout où ils vont s'inscrire. Et les mecs vont pleurer après en se disant « Oh mais attendez, je vais essayer de prendre la voix de Mickey. Hein. Mais attendez, je viens de m'inscrire sur Disney+, et j'ai été piraté, mais c'est pas bien Disney. » Non, non les gars, c'est vous le problème. C'est vous qui mettez toujours le même mot de passe partout. Donc du coup, en 2 heures de temps, j'avais une collecte phénoménale. Alors il faut savoir que pour le moment, cette collecte véritablement touche que les États-Unis. Parce que Disney+, n'est qu'au Canada, aux États-Unis et aux Pays-Bas. En France et autres pays, on ne les a pas encore en main. Mais ça montre surtout que le business du black market n'attend pas 3-4 jours comme l'article ensuite sur ZDNet. Non, ils interviennent dans l'heure de la diffusion ou du lancement d'une boutique. Et c'est là où vous, clients, nous utilisateurs, arrêtons de toujours taper sur « Oh là là, cette méchante entreprise ». Non, le cas des Disney+, ce sont tous ces gens qui ont répondu à des phishing, qui ne font pas gaffe là où ils cliquent, et ou qui utilisent le même mail et le même mot de passe.
C'est quand même bien que tu aies rectifié ce que je dis, parce qu'effectivement, si on va reprendre ce que tu as dit la dernière fois, je lis vos brèves, qui sont parfois insuffisantes pour être capable d'enchaîner les choses correctement, ce qui est tout à fait très drôle. Oui, c'est très troublant, mais de toute façon, tu l'avais déjà dit, on en a parlé un peu au Hackfest. Il y a des marchés, Netflix, tu peux acheter des instituts, fait que Disney+, c'est pas pire ou mieux que les autres. Là, il vit comme dans le même univers troublé et mal sécurisé des gens qui font tout et n'importe quoi. Là.
Bon, il faut être quand même très honnête aussi. Si éventuellement des gens de Disney nous écoutent, par pitié, retirez ce compte test@disneyplus.com. Bisous.
Lol. Passons à une autre fuite. Des centaines d'anciens du côté de Kaspersky.
Oui, ben là, vous connaissez mon appointance à mettre mon nez partout où il ne faut pas. Hein. Donc, ça veut dire chez les pirates, mais au contraire. Eh bien, c'est simple. Hein. Un pirate informatique est en train de discuter avec ses petits copains que je lisais, que je regardais. Alors, je vous avoue que je ne comprenais pas tout ce qu'il racontait parce que ce n'était pas obligatoirement soit de la langue de Shakespeare ou soit de la langue de Molière. Toujours est-il qu'ils se sont amusés à faire un environnement global de toutes les adresses appartenant aux employés de chez Kaspersky. alors récentes ou anciennes, hein, peu importe, hein, et ils avaient commencé à classifier ces adresses mail avec les mots de passe attenants. Je vous cache pas que moi j'en ai fait une petite brève sur mon blog, hein, histoire de pouvoir faire réagir un petit peu, et puis surtout, je n'avais aucune réponse du service de communication de Kaspersky. Alors je vous cache pas que dans l'heure de l'article, j'avais toute la Russie qui me contactait, hein. Je vais être très honnête avec vous, ils ont été super efficaces. Très sympa, en plus. Bon, alors, on a compris que peut-être les problèmes de service communication, c'est peut-être de ma faute, parce que je n'avais pas obligatoirement toutes les bonnes adresses des attachés de presse. Mais bon, c'est ça, quand on est milliardaire, on a plein d'attachés de presse, hein, n'est-ce pas, Nicolas? Et donc, du coup, aucun rapport, hein. Nicolas n'a pas plein d'attachés de presse. Par contre, il est milliardaire. Et donc, du coup, toutes ces fuites de données, eh bien, ça montre aussi que ça touche tout le monde. N'importe qui. Alors là, j'ai eu Kaspersky, mais j'ai eu aussi Zone Alarme la veille. Zone Alarme, alors là, c'est plus grave. Je vais être très honnête avec vous. Hein. Très bon petit logiciel, grosse société derrière qui est connue et reconnue. Sauf que, les gars, quand il y a une faille qui s'appelle V-Bulletin, qui est expliquée en long, en large depuis le mois de septembre, et que un mois et demi plus tard, elle n'est toujours pas corrigée, et que des pirates avec leurs petits sabots de bois, et leurs petits sacs à dos, et leurs petits bonnets de laine... Oui, je vous ai fait une petite imagerie d'Épinal d'un pirate très bizarre. Hein. Mais voilà, toujours est-il que la faille, ils l'ont volée, ils ont pris les données, et ils les ont diffusées. Autant dire que pour l'image de marque, c'est moche. Pour ensuite le social engineering, ça permet de savoir qui est intéressé, donc qui peut-être utilise ce programme. Bon, alors, j'ai reçu un super communiqué de presse, hein, m'expliquant que dans une démarche de cybersécurité, nous avons pu repérer ce problème. Oui, enfin, oublie pas de dire merci, surtout.
Bon, c'est tout à fait... Et non, je ne suis pas milliardaire ni millionnaire. On peut déjà réduire les choses. Puis Steve veut intervenir.
Le petit Nicolas est prié d'éteindre son deuxième micro. Merci.
Oups.
Merci, Damien. T'as été plus vite que moi.
C'est ce que dit mon épouse.
Désolé, j'ai un problème avec mon client visuel qui s'est rebranché, il a mis le micro. Mais bref, ce que je disais, c'est que je ne suis pas ni milliardaire ni millionnaire, mais je suis rien. Je suis
Ouais, hashtag complot.
Non, hashtag rien pantoute. Ah là là. Passons à des rançons logicielles qui, malheureusement, affectent des choses peut-être un peu moins plaisantes.
Là. Ah ben c'est simple, hein. Vincent, Richer, Steve, toi, Nicolas, mais Patrick, mais aussi tous nos amis et nos auditeurs, je pense que vous avez au moins entendu une fois par jour des problèmes de ransomware. Alors on pourrait se dire que aujourd'hui, les gens commencent à faire attention, commencent à faire gaffe, à ne plus cliquer sur ce petit fichier joint, à ne plus télécharger sur BitTorrent le dernier Britney Spears, à mettre à jour ses NAS et compagnie. Eh ben non! Non! Ça continue à foutre un bordel monstrueux. Et les ransomware, je ne sais pas ce que vous en pensez les gars, mais on a l'impression qu'au départ, c'était, allez, ce petit bonbon au sirop d'érable. Vous savez, le petit truc sympa. Et puis ensuite, la petite glace, le petit sucre qu'on met dans la glace qui devient un petit peu plus costaud à manger. Là maintenant, on est passé à une poutine de 3 tonnes à chaque ransomware. Pourquoi je vous dis ça? Vous avez vu le nombre de sociétés de taille XXL qui sont à voir? Alors on a eu ASP, on sait rien du tout, hein, c'est juste un hébergeur. On a eu Pemex, oh c'est rien du tout, c'est juste le numéro 2 du pétrole dans le monde et l'un des plus gros fournisseurs financiers du Mexique. Oh là, caramba, c'est quoi ce bordel? Là en France, on a le centre hospitalier de Rouen, oh c'est juste un hôpital monstrueusement grand, d'une efficacité redoutable, qui, du jour au lendemain, dit « Oh ben, on a un tout petit problème, on peut plus fournir les médicaments, on peut plus prendre les prédictions et les inscriptions pour nos malades, on peut plus les soigner correctement. On a été super attaqué. Oh là là !» Non mais sans déconner, mais ça devient du n'importe quoi. Vous attendez quoi? Que des gens meurent? Moi, je peux vous nourrir en poutine, si vous voulez. Hein. Mais il y a un moment, la digestion, on risque de la prendre sans même apprécier la poutine. Alors voilà, c'était un petit coup de gueule. Le mec qui gueule pour rien, vous savez, il s'énerve tout seul derrière son micro. Et ça devient fou furieux. Il y a 2 ans, ça touchait vous et moi, le petit utilisateur lambda. Et aujourd'hui, ça tombe sur des sociétés derrière Pemex. Non mais what the fuck, les gars? Vous attendez quoi? Que Trump appuie sur le bouton rouge parce qu'il a cru que c'était un ransomware ou le contraire?
Bon, de toute apparence, personne ne veut réagir sur cela. Et quoi, Steve est comme écrasé de rire parce que le coup de gueule est tout à fait excellent et assez violent, ma foi.
mais tout à point. Je veux dire, voici Damien à son éloquence magistrale.
Mais c'est effectivement excessivement troublant de voir des sociétés. Puis numéro 2 du pétrole, là, il y a vraiment des milliards de dollars qui se transigent. Pas comme... Pas, hein? Donc, j'ai encore de la difficulté à comprendre pourquoi ces compagnies-là, mais en même temps, l'élément positif que c'est va amener que Norsk Hydro avait réussi à faire intervenir la communauté pour les aider à communiquer. Il avait communiqué correctement à cet état de situation-là. Il aurait dû peut-être ces compagnies-là apprendre de cet élément de communication-là et d'apprendre que c'est qu'il faut mettre les choses en place. C'est malheureusement la réalité de tous les jours. Les rançons logicielles, les ransomware, toutes les compagnies sont touchées ou peuvent être touchées et tout, c'est plus juste l'individu lambda ou Madame Michu. Steve veut intervenir?
Oui, parce que d'ailleurs, lors d'une conférence à Ottawa cette semaine, on a la Banque du Canada qui est exactement, quasiment les mêmes mots que tu as utilisés, Nicolas. Sème le message à ce qu'il y ait beaucoup plus de coopération en échange d'informations, comme Damien a précisé, sur des types d'attaques qui ont lieu, quand que ça a lieu, pour que tout le monde puisse travailler dans le même sens et non pas compétitionner. Cette compétition-là, elle est très malsaine présentement. C'est pour ça que les malfaisants ont l'avantage en tout point. Et de cette manière-là, il faut continuer à cette collaboration-là. Damien?
Et sans compter, moi, ce qui me fait très, très peur, je ne sais pas ce que tu en penses, Steve, hein, Nico, Richer et Vincent, tous ceux qui payent, qui ne l'ont pas dit, qui ne le diront jamais, sauf que dites-vous que si vous avez payé, ça va sortir. Parce que les gars que vous avez en face, les pirates, pardon du terme, ce sont de véritables enfoirés. Et il y a un moment, ils vont trouver le deuxième effet de l'arnaque. Ils vont dire, vous souhaitez que j'annonce à tout le monde que vous avez payé? Non? Alors payez et je me tais.
Ouais, ben ça, on l'a clairement vu de toute façon dans les différentes choses que tu m'as communiquées pour la conférence de Hackfest. Ils vont extraire, puis on l'a vu avec les affaires aussi. L'actualité, excusez pas les affaires. Ils vont tordre le citron jusque tant qu'il n'y a plus absolument plus rien. Le zeste, les pépins, la pub, tout était extrait. Fait qu'ils vont aller jusqu'au bout pour aller vous exploiter. Steve?
Non, j'avais rien de spécial à ajouter là-dessus. Là.
Ah, OK, j'avais cru que tu avais une intervention sur ce sujet. Bref, de toute façon, c'est un sujet qui est encore d'actualité, puis les malveillants n'ont aucun orgueil. Ils vont extraire tout le jus qu'ils sont capables de vous autres. Donc, ne payez pas, parce que vous allez juste vous mettre à devoir payer une deuxième fois, de toute façon. Donc, c'est quand même assez raide. Cela étant, on va...
Oui. Le plus simple, vous embêtez pas. Envoyez-nous l'argent. Ce que je fais, c'est que moi, je regroupe tout. Envoyez-moi tout et je redistribuerai à Nicolas, à Steve. Mais envoyez-moi tout l'argent, lui donner nos pirates.
Je seconde l'initiative. C'est un excellent point.
Ça pourrait financer le podcast aussi. Là. On peut regarder ça comme ça. Il y a plein de thumbs up sur le vidéo chat. Terminons avec deux quand même bonnes nouvelles pour l'ensemble. L'Internet haute vitesse est en train en pleine progression, Steve?
Exactement, désolé pour le microphone. Oui, finalement, la base Côte-Nord va être vraiment connectée à la plus haute vitesse que qu'est-ce qu'ils avaient. Croyez-le ou pas, encore au 21e siècle, la base Côte-Nord est en dial-up, vraiment à des vitesses écrasantes, parce qu'ils n'ont pas le choix, je veux dire, il n'y avait pas grand-chose qui se rendait là, pas que le signal satellite. Et oublions l'ADSL, c'était vraiment du dial-up tel qu'on le connaît il y a 25 ans. Et maintenant, l'Internet haute vitesse, parce que TELUS a vraiment déployé de la fibre optique jusque dans les bas-fonds de cette base Côte-Nord pour être capable de les ramener à la société. Et ça va aider beaucoup les communautés retirées comme ça. Quand on dit retirées, ils sont vraiment en dehors des centres urbains. Et de ce fait, ils vont être en mesure d'avoir beaucoup plus accès à la télémédecine, mais surtout les écoles. Avoir accès à du contenu vidéo intéressant, parce que le monde prend pour acquis, on clique sur une vidéo, tout le monde le reçoit à vitesse grand V, mais dans des lieux reculés comme ça, là, la vitesse grand V, le V est très minuscule, là, il est en caractère 8. Là. Fait que c'est de cette façon-là que tout le monde va pouvoir en profiter, ça va être fantastique. Et ce qui a amené aussi l'intérêt des îles de la Madeleine
à renouveler le fait que eux aussi, ils ont juste deux câbles de fibre optique qui arrivent sur l'île, mais la distribution, elle est aussi mal faite sur l'île, les îles, je devrais dire. Et donc, ça a relancé le débat pour les deux télécommunicateurs qui sont présents à revoir le plan de match pour être capable, parce qu'ils ont eu des négociations, ça a tombé. Il faut qu'ils reprennent pour qu'ils ramènent vraiment une infrastructure solide sur l'île pour être capable d'offrir justement un signal intéressant, quoi qu'ils ont, l'infrastructure qui se rend là. C'est juste à retravailler pour que ce soit plus intéressant. Donc, chapeau, merci TELUS pour ça. Ça va être une belle, un beau jour pour Ben et communauté comme ça.
Alors, ça fait plaisir d'entendre ça, hein, parce que ça montre que des gens très éloignés vont pouvoir aussi profiter du numérique. Moi, je vais juste vous donner un tout petit exemple. Je suis dans le nord de la France, dans une ville d'une belle taille. On a un opérateur qui s'appelle Orange, qui est l'opérateur historique, qui est en train d'installer la fibre dans ma ville. Ça fait 7-8 mois. Là, ils viennent de faire une conférence en expliquant que ça y est, la fibre est dans ma ville. Ça y est, ils ont terminé. Le lendemain, je reçois un mail m'indiquant que ça y est, monsieur Bancal, la fibre est dans votre ville. Par contre, vous serez éligible dans un an et demi.
Bon, tout le monde rit, fait que je vais faire un état que tout le monde rit et que Steve veut intervenir.
Ça me fait penser quand je suis allé l'année passée à Haïti, à Port-au-Prince, ils sont dans un mode justement de déploiement de fibre optique partout. Et ce qui est ironique là-dessus, je demeure dans un rayon de 45 km de Montréal et il y a zéro plan de déploiement de fibre optique ici. Et je suis très près des artères principales de communication. C'est ça qui fait que c'est ironique où il y a des fois des lieux vraiment lointains qui vont recevoir des liens de communication très rapides et modernes, alors que les autres souffrent parce que les grandes compagnies attendent des investissements gouvernementaux de quoi que ce soit avant de faire l'investissement eux-mêmes. Donc, c'est malheureux de voir qu'ils vont capitaliser non pas les infrastructures, mais bien l'injection de fonds publics pour être capable d'accomplir ça au lieu qu'ils soient responsables comme compagnie et d'en faire des investissements dans les infrastructures. Ça, c'est pas d'hier. Ça, c'est les belles de ce monde, les Cogeco, les TELUS, je veux dire, c'est partout comme ça, je crois, au pays qui tarde souvent à faire ce déploiement-là.
C'est pas une situation, pour l'arrivée du numérique, c'est souhaitable que tout le monde l'aille. Moi, j'ai la fibre, fait que je suis bien heureux, mais ça devrait être un service essentiel à l'heure actuelle. Au 21e siècle, ça devrait être un service essentiel. J'ai même plus de questions là-dessus. Là. Je comprends pas pourquoi ça ne l'est pas plus, mais encore là, tu l'as clairement mentionné, Steve. Financement?
Exactement. C'est une grosse question d'argent, malheureusement. Et je peux citer Bell facilement parce que ça fait 20 ans que Bell n'est pas loin. Puis encore là, c'est devenu un running gag. Je leur demande quasiment à tous les 5 ans quand vous allez upgrader un peu que la switch téléphonique du village, quand vous allez upgrader d'avoir du lien, etc. Puis ils ont acheté un compétiteur local. Il est supposé de faire son déploiement. Lui-ci, ça fait 3 ans, je l'harcèle. Vous dites que vous êtes déployé dans le coin. Allez, ça va-t-il être une réalité? Ah oui, ça s'en vient, ça s'en vient. Mais c'est ça qui est plate. Ils ne veulent pas.
Ceci est un intermède conspirationniste. Il est fort possible que les grandes compagnies télécom veulent rapprocher les régions plus près des villes.
Oh là là! Bon, terminons avec une dernière bonne nouvelle. Steve, et puis c'est une bonne nouvelle pour le citoyen dans ce cas-ci, ou en ce cas pour le citoyen lambda. Dans la mesure où les sociétés de placement devront signaler les incidents de sécurité. Et c'est une première étape. En tout cas, Steve est en train de se mettre de l'éclairage pour qu'on le voit encore davantage. devront signaler les incidents de cybersécurité, ce qui est une bonne nouvelle pour le citoyen et pour le commun des mortels, dans lequel, à ce moment-là, on va être dans un monde où on va être petit à parité avec ailleurs dans le monde.
Ben oui, en fin de semaine, l'organisme canadien de réglementation du commerce et des valeurs mobilières, donc jeudi dernier, a annoncé qu'ils étaient à mettre en place des règles pour justement faire une déclaration obligatoire des incidents de cybersécurité dans les organismes donc qui sont avec justement le traitement des valeurs. Et c'est dans la mouvance que justement, on a vu il n'y a pas longtemps, que là, tout le monde commence à se sentir la soupe chaude. On a eu une déclaration du commissariat à la vie privée du Canada au début du mois. S'en est suivi une déclaration en parallèle de la Commission d'accès à l'information, qu'eux autres aussi ils reconnaissent que ça fait 35 ans que la loi sur la protection des renseignements personnels n'a pas été révisée à son fondement original. Et donc, c'est tombé des nues là, que tout d'un coup, on est rendu là à faire ces mises à jour. Mais je dis que c'est une bonne nouvelle, trêve d'ironie, que ce soit les organismes responsables comme ça de superviser les transactions financières, que là, justement, ils se veulent d'être responsables d'amener cette déclaration-là dans un autre niveau, c'est-à-dire que ça devienne exemplaire, en fait. Parce que de plus en plus, tout le monde était là, tout le monde se regardait, ben, disait, on fait quoi? Il y a des divulgations, on fait quoi? Ben, rentre dedans, là, commence à travailler pour être capable de bien le documenter, d'être responsable, surtout aviser l'échelon supérieur que tout le monde à l'intérieur dans l'organisation, ben, il faudrait qu'il soit juste imputable. Je ne l'ai pas trouvé encore dans leur texte qui devient imputable encore là, mais si ça devient que tous ceux qui ont un titre à la présidence ou à la vice-présidence en sont imputables, mais là, il y en a qui vont vouloir réagir quand même de façon concrète, au lieu de dire « je m'en excuse, c'était pas nous autres, on s'en joue pas. » Vincent?
Moi?
Non, Vincent, je pense que c'est trop conspiration.
Non, je suis d'accord avec Steve. Moi, je m'en trompe pas, là. Sais-tu... comment je dirais bien ça? Je vais être poli. Je vais être extrêmement poli. Je sais, Nicolas, ça c'est d'être poli, soyez vrai. Je suis d'accord avec Steve. Plus de clarté. Il y a des éléments, là, des indicateurs. Je vais appeler ça des indicateurs. Nous, en informatique, on appelle ça des métriques. OK? Donc, vous savez de quoi je parle. Mon patron, lui, des métriques, il ne connaît pas ça, ce mot-là. Cependant, il y a un équivalent, on appelle ça des indicateurs. Il y a des indicateurs qui sont indéniables. Plus de clarté, tu veux restreindre des accès. Dire que dans une réglementation ou une loi, tu veux restreindre un accès X, Y, Z, c'est super facile à faire, c'est super facile à dire, etc. Fait que je suis d'accord avec toi, Steve. Il manque un petit peu de, je dirais pas de rigueur, mais de courage. Un petit peu de courage managérial.
Ben vois-tu, Vincent, juste pour compléter, qu'est-ce qu'on apporte? Les sociétés de placement, veux dire, ils ont à date ont imposé dans un délai maximum de 3 jours, ce qui reflète le RGPD, en fait, de fournir une description préliminaire de l'incident. C'est bien sûr qu'ils ne peuvent pas donner des détails, ils sont en train d'investiguer. Puis après ça, un délai de 30 jours, ces sociétés devront fournir un rapport d'enquête détaillé. Fait que ça resserre la vis, s'il vous plaît, quant à la réaction face à l'incident. Et au moins de dire, en dedans de 72 heures, sinon, qu'est-ce qui se passe? Fait que, mais mettons ça, calquons ça dans le contexte de Desjardins. Hey, on l'a reçu bien avant juin, c'est ça qui est drôle. Hein? Imaginez, là, 30 jours, vous donnez un rapport détaillé. Desjardins, on n'a toujours pas eu de rapport, puis on ne l'aura pas, je pense.
Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense qu'on est en mesure de... On n'est pas fou, là. L'information va sortir. Hein? On l'a dit tantôt pendant le podcast. L'information va sortir. Oui. Faut qu'on soit les ninjas là-dedans. Merci, Damien. Non, t'as raison.
C'est impossible en rejetant Damien de rester sérieux.
T'as raison, Steve. Dans le contexte, là, j'ai eu une discussion de même avec mon patron dernièrement. C'est dans un contexte similaire, pour ne pas le nommer, là. Mais tu as tout à fait raison. Il y a des indicateurs qu'on peut... OK. Il y a des...
Bon, pour expliquer, en fait, je suis en train de leur afficher des images. Non coquines, mais ce sont des images.
C'est sérieusement très difficile à enregistrer avec Damien.
Ça, je bloque sa fenêtre. Quand je parle, je bloque sa fenêtre. Comme ça, je ne suis pas distrait.
Bon. Alors, Steve, pour conclure, là, je suis d'accord avec toi. Les indicateurs, le temps, c'est de l'argent. On est-tu d'accord? Le temps, c'est de l'argent ou le temps, c'est du dommage? Le temps, c'est du dommage. Alors, le temps est important dans le dossier. Je pense que c'est un indicateur qui est important.
Espérons que le message sera capté, mais brièvement, Nicolas, ce qui va être intéressant, c'est que on va l'amener, ça, dans le cabinet du ministère avec la transformation numérique, avec la politique de cybersécurité. ça va être des moyens très intéressants d'intégrer dans cette nouvelle politique-là, qui fait en sorte que ça ne reste pas juste des informations. Moi, je te dirais donc, des façons de faire marginales par juste des petites organisations à gauche et à droite, pour que ça devienne justement un mot d'ordre global et que tout le monde travaille dans le même sens. Puis c'est là qu'on ramène, Patrick et moi, souvent les notions de base comme ça. Et pour partir, bien, partons quelconque le modèle copy and paste du RGPD, et après ça, on l'adaptera à notre réalité. Je crois que ce serait un bon début pour mettre des balises avec lesquelles ces organisations-là, peu importe public, parapublic ou privé, s'alignent là-dessus et qu'on arrête de se péter les cheveux en quatre.
Attention quand même, hein. Là pour vivre le RGPD ici en France depuis maintenant, ça va bientôt faire 2 ans, on a eu aussi la loi fraude, la loi informatique et des libertés de 1978, il existait déjà des normes et des obligations, et ce qui est très intéressant c'est que dans ces nouvelles lois, les avocats et les juristes ont trouvé aussi le moyen de ne pas tout dire, de pouvoir tout contourner, de pouvoir même faire taire les lanceurs d'alerte. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est super important que tout le monde puisse y mettre son nez dedans, de pouvoir au moins mettre effectivement, comme vous dites les gars, hein, mettre des jalons, mais attention que ça ne desserve pas, malheureusement aussi potentiellement, eh bien nous les utilisateurs qui sont dans ces nasses de données qui ont pu être perdues, qui ont pu être effacées, qui ont pu être lues, qui ont pu être volées, c'est super complexe. Déjà qu'ils ne comprenaient rien avant, j'ai bien peur qu'ils comprennent encore moins après.
Bon point, Damien, c'est certain, mais à défaut de rien avoir, commençons par un certain début et ça fait ses preuves présentement. Là, on voit que ça donne des résultats positifs. Fait que, alors, voyons plus loin.
Tout ça est très intéressant. De toute façon, l'expérience RGPD de Damien est très intéressante, puis je crois que quand il va dans le sol canadien, il va encore ad nauseam nous aborder avec ce genre de sujet-là. Et les effets de bord des avocats, ils sont toujours très, très, très surprenants. Sont là pour faire du business, puis sont là, justement, j'ai un blue screen dans mon visage et qui vient de chez Damien. Fait que je pense que je vais le faire rebooter Damien de façon violente. Donc, non, mais il faut juste mesurer les effets inattendus de ces législations-là. Et c'est très difficile de les prévoir d'avance à quel point ça va avoir. Donc, il faut s'inspirer du RGPD, oui, mais il faut aussi s'inspirer des effets de bord que le RGPD a. Et bref, c'est très, très complexe comme sujet. C'est sûr qu'on va réaborder, mais dans le cas de, minimalement, l'AMF, j'imagine que ça va être l'AMF qui place ces placements. Bref, qu'ils doivent divulguer, c'est une bonne chose. Est-ce qu'ils vont le faire? On verra. Je suis très rassuré de savoir que il y a des conseillers très importants. Vous êtes capable de conseiller le politique, à savoir d'amener une législation intéressante. Et j'ai hâte de voir les suites de ce qui vont en suivre. Et je vais conclure là-dessus parce que ça fait plus qu'une heure qu'on enregistre. Et si je ne voulais pas que nos auditeurs s'endorment en cours de chemin, on va arrêter là. Steve avait encore une surabondance de choses. Allez voir dans les show notes parce que toutes les nouvelles qu'on n'aborde pas de Steve sont présentes. Sont très pertinentes aussi. Si des fois, il nous les ramène dans des épisodes subséquents, mais il demeure qu'on les diffuse tout le temps. Fait que voyez les show notes. Messieurs, c'était un énorme, énorme, énorme plaisir de voir au Hackfest et de voir en aussi grand nombre l'épisode post-Hackfest et que vos foies soient encore en bonne vie, en bonne santé.
Bah écoute, nous, ça va, c'était bien. Et puis, vu les litres et les litres d'alcool qui ont été ingurgités, je pense que vos timbres de voix sont parfaits.
Tu connais maintenant le secret, Damien, c'est facile.
Ouais, enfin, je suis le malin. Hein. Moi, je me faisais caca dessus, j'avais perdu mon passeport. Hein, donc.
Et t'as pas d'image à démontrer ta pensée, là? C'est surprenant.
Non, ça va... Bah c'est simple, hein, vous prenez ma tête, vous la transformez en vert, bleu, jaune. C'est un peu mon état.
Ah, tant mieux. Merci, Nicolas. C'était, oui, très agréable.
Ciao, ciao!
Hey, salut les boys. On se revoit dans 2 semaines.
Allez! Et on veut l'avoir riché.
Salut tout le monde et... Over and out.
Ce qui est bien cliché, c'est qu'il est là, Mais quand il parle, il a une voix, mais laisse tomber, quoi. Je suis jaloux, mais c'est bien. Il dit que trois mots, mais c'est parfait.
Ma présence est là, est marquée seulement par la fin. Ben, j'avais rien à ajouter, donc c'est pour ça.